Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons reprendre nos Bibles que nous aimons et l'ouvrir dans... Alors là, ça sera plus difficile à trouver, parce que c'est un tout petit prophète. C'est le plus petit livre de l'Ancien Testament. C'est le livre d'Abdias. Abdias, chapitre 1, verset 1 à 21. Vision d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un émissaire a été envoyé parmi les nations. Levez-vous! « Levons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Voici que j'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'insolence de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les creux des rochers, dont l'habitation est élevée et qui dis en toi-même, « Qui me fera descendre jusqu'à terre ?» Quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterai. Oracle de l'Éternel. Si des voleurs, des pillards nocturnes viennent chez toi, ah, comme te voilà ruiné, ne te voleront-ils pas ce qui leur est nécessaire? Et si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils autre chose que du grappillage? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses cachettes sont éventrées. Tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à la frontière. Ils t'ont trompé, ils t'ont emporté sur toi, tes amis. Ils se sont servis de ton pain comme un piège pour toi par-dessous. Il n'y a point d'intelligence, disent-ils. N'est-ce pas en ce jour, oracle de l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes vaillants, ô Théman, seront dans l'épouvante, pour que tous les hommes soient retranchés de la montagne d'Ésaü par suite de la tuerie. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où d'autres gens emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère, le jour de ton infortune. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple au jour de son désastre. N'arrête pas tes regards, toi aussi, sur son malheur au jour de son désastre et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de son désastre. Ne te tiens pas au carrefour pour examiner ses rescapés et ne livre pas ses survivants au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, ta rétribution retombera sur ta tête. En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Négeb posséderont la montagne d'Ésaü, ceux de Shephela le pays des Philistins. Ils posséderont la campagne d'Éphraïm et la campagne de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Les déportés, cette armée d'Israélites, posséderont le pays des Cananéens jusqu'à Sarepta, et les déportés de Jérusalem qui sont à Sarepta posséderont les villes du Négeb. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jésus a dit que lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et nous avons besoin d'être convaincus de jugement pour saisir la grâce de Jésus-Christ. Et nous comptons donc ce matin encore sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur l'œuvre de conviction de l'Esprit de Dieu, pour que chacun ici puisse saisir la grâce de Jésus-Christ. Nous avons commencé une série sur les 12 prophètes. La dernière fois, nous avons répondu d'ailleurs à deux questions. La première était, pourquoi étudier les 12 prophètes ? Je ne vais pas maintenant refaire cela, mais l'élément principal, c'est que c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous avons répondu à la question, qu'est-ce que le jour de l'Éternel ? Nous avions pris un peu plus de temps pour développer ce sujet-là. Mais peut-être vous souvenez-vous des trois termes qu'il ne faut pas oublier lorsque nous parlons du jour de l'Éternel. Trois termes. Est-ce que vous vous en souvenez ? Jugement, c'est un premier terme. Donc il y a trois termes à ce sens. Jugement, libération et application. Jugement, libération et application. En fait, jugement des méchants, libération du peuple de Dieu et application de la loi de Dieu. C'est ce qu'annonce et ce qu'est le jour de l'Éternel. Nous avions vu ensemble pourquoi il existait et qu'en fait, il a déjà eu lieu par prototype dans l'histoire et il aura lieu donc une fois dans l'histoire finale. Donc le thème du jour de l'Éternel est d'ailleurs explicitement bien présent ici dans le premier prophète des 12 avec qui nous allons faire connaissance aujourd'hui. Et afin de mieux connaître ce livre d'Abdias, nous allons procéder de manière suivante. Nous parlerons un peu de l'auteur et du contexte utile pour comprendre ce livre. Ça prendra un peu de temps, mais c'est utile de saisir ce contexte. Ensuite, nous ferons un survol du contenu. Quelques minutes pour voir tout le contenu d'Abdias. Et nous réfléchirons, en troisième point, au lien avec Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est le centre de la Bible, disons-nous, alors, quels sont les liens d'Abdias ? Et quatrièmement, nous réfléchirons à quelques applications que nous pourrons tirer de ce livre. Donc, premièrement, l'auteur et son contexte. Deuxièmement, un survol. Troisièmement, le lien avec Jésus-Christ. Et quatrièmement, quelques applications de ce livre pour nos vies. Ça va, vous avez attaché vos ceintures. On décolle. Donc, l'auteur et son contexte. Alors, c'est, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, le livre le plus court de l'Ancien Testament. Et qui a été écrit, en fait, par un inconnu. Oui, c'est vrai que son nom est cité, premier verset, gardez vos bibles ouvertes, dans Abdias, le premier verset, il est parlé d'Abdias. Abdias veut dire serviteur de l'Éternel, ou adorateur de Dieu. Abdias veut dire serviteur de Dieu, ou adorateur de Dieu. Et plusieurs personnes dans l'Ancien Testament portent ce nom. On en a une douzaine, en fait. Et le plus connu, c'est le gouverneur d'Akab, qui vient à la rencontre d'Élie à la fin de la sécheresse, peut-être vous vous souvenez, eh bien, il s'appelait Abdias, qui était resté fidèle à l'Éternel. Mais aucun de ces personnages ne correspond au prophète ici, Abdias, qui dit clairement qu'il transmet la parole du Seigneur, l'oracle de l'Éternel. Donc ce terme Abdias peut aussi être simplement un surnom pour dire que c'est un serviteur de l'Éternel. Nous n'en savons pas plus sur l'auteur. Il est difficile aussi de le fixer dans le temps, à quelle période ce livre a été écrit. Parce que le seul moyen de dater ce texte est en lien avec son contenu, avec ce qu'il dit. Et en fait, il est question, particulièrement au verset 10, on le voit très clairement, d'une agression d'Édom contre Israël. Donc il y a dû y avoir une agression d'Édom contre Israël, et le prophète a parlé. Et beaucoup le... Plusieurs le situent lors de la déportation d'Israël par Nebuchadnezzar, où là, il y a une agression contre Jérusalem et Édom y a participé. Le psaume 137 nous le dit d'ailleurs. Je vous lis le premier verset, le verset 7 du psaume 137. Psaume 137 qui dit « Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. » Donc après cette attaque, verset 7. « Éternel, souviens-toi des Édomites. » qui au jour du malheur de Jérusalem disait « Rasé, rasé » jusqu'à ses fondations. Donc ça voudrait dire que c'est à ce moment-là, en fait, que les Édomites ont agi contre Jérusalem et que Abdias aurait écrit. Abdias aurait été là, contemporain de Jérémie. Mais cela peut aussi se situer sous Joram. En fait, dans 2 Corinthiens, dans 2 Chroniques qui racontent l'histoire d'Israël, eh bien, nous avons une situation particulière qui s'est passée du temps d'Yoram. Il est dit dans chapitre 21, verset 16 de 2 Chroniques, « L'Éternel réveilla contre Yoram l'esprit des Philistins et des Arabes qui étaient voisins des Couchites. Ils montèrent contre Juda, y firent irruption, capturèrent tous les biens qui se trouvaient dans la maison du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joahaz, le plus jeune de ses fils. » Et nous pouvons clairement penser qu'Abdias fait mention de cette situation, parce que Amos et Joël, qui sont des prophètes qui ont été juste 10 ans après cette situation qui s'est passée, que je viens de vous lire, eh bien, disent ceci, Amos dira, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je te révoque de mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom tout un peuple de déportés, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. » Donc Amos dit cela peu de temps après, et Joël aussi, c'est un peu aussi dans cette période, bien avant la déportation. « L'Égypte deviendra une désolation, Édom deviendra un désert, une désolation, à cause de la violence contre les fils de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent sur leur terre. » Et cela signifie qu'Abdias serait le premier des 12, et qu'ainsi la première prophétie écrite l'a été à un ennemi du peuple de Dieu. Donc Abdias serait le premier de ces 12 prophètes, et même des autres d'ailleurs, et qui en fait serait la première prophétie qui a été écrite, et elle a été écrite à un ennemi du peuple de Dieu. Il serait en fait contemporain d'Élisée. Alors, on peut pas l'affirmer avec certitude, mais c'est l'option que j'ai prise dans l'étude de ces 12, puisqu'on fait une étude chronologique. Et nous commençons donc avec Abdias pour cette raison. Donc, environ 800 avant Jésus-Christ. Abdias est donc un prophète qui annonce un jugement à Édom, alors qu'il est venu faire du mal à Israël. Alors là, j'aimerais faire une petite pause et vous dire quelque chose de très important, que vous devez vous rappeler toute votre vie. Vous êtes prêts? Quand Dieu annonce un jugement, il le fait pour appeler à la repentance. Ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas cette notion en lisant les prophètes, vous ne les comprendrez jamais. Donc, rappelons-nous toujours que l'annonce d'un jugement est en fait un appel à la repentance. Même si dans l'annonce du jugement, il n'y a pas forcément l'appel en lui-même. C'est vraiment important à saisir, parce que Dieu est lent à la colère. C'est pour ça qu'il annonce ces choses. Et il désire que les personnes concernées se repentent et se détournent du mal. Voilà. Alors si vous retenez ça, déjà pour toutes vos dix, c'est bien. Mais on va continuer avec Abdias. Abdias annonce le jugement à Édom bien avant la prise de Jérusalem, et ce peuple aura beaucoup de temps pour se repentir. C'est à cela que sert la lenteur de la colère de Dieu, à la repentance. Mais avant de nous pencher sur ce que dit Abdias, nous allons réfléchir un certain temps sur Édom. C'est qui Édom? En fait, le peuple d'Édom et le peuple d'Israël descendent tous les deux d'Abraham et d'Isaac. Le peuple d'Israël et le peuple d'Édom, ils descendent les deux d'Abraham et d'Isaac. Là, il faut revenir dans Genèse. Vous pouvez garder un petit doigt dans Abdias et revenir dans Genèse. Genèse 25. Genèse 25, verset 21. Donc, Abraham, Isaac. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront en sortie de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Jacob et Ésaü. Ésaü ne s'intéressait qu'à la chasse et aux biens matériels. Les promesses de Dieu ne l'intéressaient pas. Au point qu'il avait le droit d'aînesse. C'était le premier qui était né. Et ce droit d'aînesse, en fait, lui assurait la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et Isaac. Mais il le méprise à tel point qu'il est capable de le donner à son frère pour une soupe ou un potage. C'est là que nous le découvrons dans Genèse 25. Si vous y êtes resté, bon, sinon il faut y revenir. Genèse 25, les versets 29 à 34 qui nous le disent. Un jour, Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint de la campagne accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors Jacob, par sa tromperie, c'est vrai, reçut aussi la bénédiction de son père par la suite. Ça, c'est dans Genèse 27. Là, je passe quelques éléments. Au verset 27, nous avons ici la bénédiction que Jacob va recevoir. Il s'approcha en lui donnant un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui dit, le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient assujettis et asservis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. » Une bénédiction était irrévocable, on ne pouvait pas la reprendre. Et Ésaü, lorsqu'il découvre que Jacob lui a volé la bénédiction, implore son père d'en recevoir une. Regardez au verset 39 ce qu'il lui dira. Son père Isaac lui répondit, « Voici, ta demeure sera privée de ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours de deuil de mon père approchent, et je tuerai mon frère Jacob. » Ésaü est rempli de haine envers son frère. Et cette haine va se transmettre à la descendance. Ésaü est rempli de haine envers son frère. Et cette haine va se transmettre à la descendance. Voilà pourquoi Édom est un farouche ennemi d'Israël. Ésaü est rempli de haine envers son frère. Et cette haine va se transmettre à la descendance. Voilà pourquoi Édom est un farouche ennemi d'Israël. C'est vrai que après le retour de Jacob de chez Laban, cela semble s'être calmé. Mais ils se sont quand même séparés. Alors c'est vrai que là, il y a une question de raison de place, semble-t-il, dans le texte. Si on lit dans Genèse 36, cette fois-ci, Ésaü prit ses femmes et ses fils et ses filles et toutes les personnes de sa maison, son cheptel, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla vers un autre pays, loin de son frère Jacob. Car leur bien était trop considérable pour qu'ils restent ensemble. Et le pays où ils avaient séjourné était insuffisant à cause de leur cheptel. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Donc Ésaü va s'installer dans l'axe entre l'Égypte et Canaan. Ils vivent dans des canyons et ils bâtissent des habitations dans des rochers. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la ville de Petra, une ville qui a été construite dans les rochers, et même des endroits extrêmement hauts dans les rochers pour être imprenables. C'était quelque part la capitale des Édomites, qui nous permet de mieux comprendre ce que dit Abdias dans ce texte. Israël, en sortant d'Égypte d'ailleurs, ont voulu passer par le pays d'Édom. Mais le roi d'Édom a refusé et a agi comme un ennemi face à Israël. Voici ce qui est dit dans Nombre 20, verset 19. Les Israélites lui dirent donc au roi d'Édom, « Nous monterons par la route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Ce n'est pas une affaire que je passe seulement à pied. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. L'animosité est telle qu'elle est restée. Mais quelques semaines plus tard, lorsque Balaam prononce des paroles que Dieu lui obligera de dire, il dira ceci. « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il blesse les flancs de Moab, il abat tous les fils de Seth, il prend possession d'Édom, il prend possession de Séir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. » Et ça s'accomplit déjà du temps de Saül, David et Salomon qui font la guerre aux Édomites et qui en fait les annexent, ils leur seront assujettis. Mais Édom se révolte et requiert de la liberté. Et même si parfois Juda gagne des batailles, Édom reste toujours agressif contre Juda et cherche chaque fois à lui faire du mal. Et à chaque attaque d'Israël, il encourage l'ennemi à détruire Israël. On l'a lu dans le psaume 37, « Rasez, rasez !» Et Ézéchiel, un prophète de l'exil, dira alors, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À cause des actes de vengeance auxquels Édom s'est livré envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main contre Édom. En j'en retranche homme et bête, je les dévaste depuis Théman jusqu'à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur. Ils feront connaissance avec ma vengeance, oracle du Seigneur l'Éternel. » L'histoire montre que les descendants d'Ésaü ont témoigné une hostilité constante aux descendants de Jacob. Donc l'histoire montre que les descendants d'Ésaü ont témoigné une hostilité constante aux descendants de Jacob. Et c'est à ce peuple haineux que Abdias s'adresse la prophétie qu'il a reçue de Dieu. C'est à ce peuple-là que Abdias s'adresse dans cette prophétie. Nous avons maintenant le contexte en fait. Voilà le peuple en fait auquel Abdias s'adresse. Un peuple qui en fait symbolise tous ceux qui sont contre l'Éternel et son peuple. Avant de passer au survol du contenu, nous pouvons ici déjà comprendre une chose quand même très forte. C'est l'importance de régler des relations qui peuvent pourrir des générations. Ne laissons pas une relation sans la régler réellement et clairement. Il ne suffit pas d'attendre. L'attente ne règle aucune relation. Et la Bible nous donne des outils. Nous avons ici étudié ensemble les artisans de paix qui sont un moyen, une manière de voir les outils bibliques pour vivre des relations qui soient réellement réglées. Le temps ne règle jamais une relation. Si vous en voulez une preuve, regardez l'histoire d'Édom face à Israël. Venons maintenant au survol du contenu d'Abdias. Dans les versets 1 à 14, nous trouvons le jugement annoncé d'Édom. Son orgueil est souligné dans les versets 1 à 9. Et Édom faisait confiance à trois choses en particulier, qui étaient sûres de sa sécurité. Premièrement, sa forte position au milieu des rochers. Ils avaient construit en fait leur ville dans des rochers qui semblaient imprenables. En plus, tout le commerce qu'ils faisaient, parce qu'il y avait une route qui passait pour aller en Égypte, donc ils se faisaient beaucoup d'argent avec tout ce qui passait là. Ils avaient des cachettes dans le rocher qui leur semblaient aussi totalement imprenables. Des banques, si vous voulez. Imprenables. Deuxième chose à laquelle ils se rattachaient, c'était à leurs alliés. Ils avaient des alliés, tous ceux qui voulaient passer par là s'alliaient à eux, et ils comptaient sur eux. Et Abdias, de la part de l'Éternel, dira que ses alliés se retourneront contre eux. Pour la première chose, Abdias leur dit aussi que même s'ils vont aussi haut que l'aigle, mettre un nid très très haut, Dieu les en fera descendre. Troisième élément, ils se posent sur la sagesse et la vaillance de leurs guerriers de Théman. Ça vous dit peut-être quelque chose, Théman, c'est un des amis de Job, en fait, qui vient de Théman. Donc il y a une notion vraiment importante de sagesse qui venait de là. Et ils s'appuyaient sur leur propre sagesse, sur leur propre vaillance. Il se sentait imprenable, inviolable et inattaquable. Il se croyait en fait invincible. Mais rappelons-nous, l'orgueil précède le désastre. Un esprit arrogant précède la chute. C'est Proverbe 16-18 qui le dit très clairement. Et les versets 10 à 14, non seulement parlent maintenant de ces fautes-là, mais parlent de la violence d'Édom contre Israël et l'avertit de ne pas agir en encourageant le mauvais traitement de son peuple. Pourtant, Édom s'est réjoui du malheur d'Israël. Édom est aussi allé piller Jérusalem et a livré même des rescapés, des fugitifs, des gens qui fuyaient, eh bien, ils ont attrapé pour les livrer. Le verset 10 explique ce que cela signifie. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. Un jugement sans appel qui fait penser à Abdias d'ailleurs au jour de l'Éternel pour ce peuple, qui représente tous les peuples hostiles à Dieu et à son peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dès le verset 15, Abdias va développer le jugement qui est sans appel pour Édom, qui s'est endurci contre Dieu. Et dans un même temps, Dieu annonce le rétablissement de son peuple. Vous vous rappelez, jour de l'Éternel, les trois éléments, hein? On a jugement, libération et application. Ces éléments font toujours partie du jour de l'Éternel. Et nous voyons dans l'histoire que Édom n'existe plus. Édom n'existe plus. Alors que le peuple de Dieu existe toujours. Des libérateurs monteront de la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartient le règne. Voici donc le contenu de ce petit prophète en une phrase. Le jugement d'Édom, ses raisons et ses effets. C'est ça Abdias en fait. Le jugement d'Édom, ses raisons et ses effets. Mais souvenez-vous, je vous ai dit quelque chose que vous devez vous rappeler toute votre vie. L'annonce d'un jugement, c'est toujours l'appel à la repentance. Et le contenu que nous venons de voir rapidement de Abdias nous enseigne plusieurs choses, je vous en donnerai quatre. La première, c'est que l'orgueil précède la chute. Deuxièmement, la fausse sécurité ne tient pas devant le jugement de Dieu. Troisièmement, la réjouissance du malheur des autres attire le jugement. Ne nous réjouissons jamais du malheur des autres, même de nos pires ennemis. Jamais. Et quatrième élément, Dieu rétablira toujours son peuple. Le moqueur et l'orgueilleux disparaîtra. Passons maintenant au lien avec Christ. Alors évidemment, vous avez déjà pu faire des applications personnelles, hein, ça fait partie de ce que l'on fait dans une prédication, mais maintenant on va dans les liens avec Christ. Il est vrai que le Nouveau Testament ne fait pas de lien direct avec Abdias. Vous ne trouverez rien dans le Nouveau Testament qui fait un lien direct avec Abdias. Mais nous trouvons un descendant d'Ésaü hostile à un descendant de Jacob, en fait au descendant ultime de Jacob, qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus est né à Bethléem, un Édomite, ou un Iduméen, qui est en fait le terme grec de Édomite, donc en grec, Édomite c'est Iduméen, un Édomite s'est particulièrement intéressé à lui pour le détruire. Donc lorsque Jésus est né à Bethléem, un Édomite s'est particulièrement intéressé à lui pour le détruire. Il s'agit d'Hérode le Grand, qui a fait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus pour tenter de mettre à mort le roi des Juifs légitime. Lui, il était roi des Juifs illégitimes. Et c'est un premier parallèle que nous pourrons faire avec le livre d'Abdias. L'hostilité des Édomites persiste jusqu'à vouloir éliminer le Christ lui-même. Voilà pourquoi ils sont sous un jugement irrémédiable de Dieu. Le deuxième lien que nous pourrons faire avec le Nouveau Testament, c'est la haine des deux lignées. En fait, elle a commencé avec Caïn et Abel. Et elle a continué avec Ésaü et Jacob, par extension Édom et Israël. Et maintenant, c'est le monde et l'Église. Édom et Israël chez Abdias représentent deux lignées, celle du serpent et celle de la femme. On revient à Genèse 3:15. Et nous la retrouvons encore dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui avec la lignée du monde, ceux qui sont de la nuit, des ténèbres, et la lignée de Christ, les enfants du jour, de la lumière. Et là, vous pouvez relire tout 1 Jean que nous avons étudié. Édom et Israël, chez Abdias, représentent deux lignées, celle du serpent et celle de la femme, que nous retrouvons encore dans le Nouveau Testament aujourd'hui, avec la lignée du monde, ceux qui sont de la nuit et des ténèbres, et la lignée de Christ, les enfants de la lumière et du jour. Il y a deux royaumes, comme l'Apocalypse le présente, avec deux capitales, Babylone et Jérusalem. Et c'est l'hostilité entre les fidèles et les infidèles de Dieu. Israël était le peuple qui devait manifester la sainteté de Dieu parmi les nations. C'était son rôle. Manifester la sainteté de Dieu parmi les nations, que le Nouveau Testament appelle le sel et la lumière parmi les nations. Mais les nations se sont placées en ennemis. Dieu prendra toujours la défense de son peuple et détruira ses ennemis. Vous vous rappelez le jour de l'Éternel, jugement du méchant et libération du peuple de Dieu. Ce sont deux faces du jour de l'Éternel. Oui, nous serons persécutés. Jésus l'a dit, mais il a aussi vaincu le monde. Et il a dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et Dieu a effectivement vaincu et jugé les Édomites. Voici ce que dit Malachie 1, les versets 2 à 5, qui dit ceci. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, oracle de l'Éternel ? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous révélerons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. » On les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz vous-même, grand est l'Éternel, par-delà la victoire d'Israël. Et Édom actuellement n'existe plus. La prophétie s'est accomplie. Dans ce point, en lien avec Christ, nous pouvons donc constater que Jésus lui-même a été persécuté par un Édomite qui représente tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et deuxièmement, les membres du corps de Christ sont pris à partie par le monde, mais le chrétien sait que Jésus-Christ a vaincu le monde et peut ainsi l'affronter sans peur. Passons maintenant à quelques applications. Qu'est-ce que ce livre peut nous dire aujourd'hui à nous ? Je vous en proposerai 4. La première, c'est que le livre d'Abdias nous montre que l'Éternel est souverain sur tous les peuples, et pas uniquement il n'est pas uniquement le Dieu d'Israël. Il est souverain de toutes les nations qui devront un jour rendre compte devant lui. Donc si quelqu'un ici n'est pas chrétien, et il se dit, mais Dieu il s'occupe que des chrétiens, eh bien tu te trompes. Parce qu'il est le Dieu de toute création, et toute créature devront rendre compte devant lui. Toute nation, même actuelle, devront rendre des comptes devant Dieu. Premier élément que nous pouvons retirer de ce livre d'Abdias. Deuxième application, le livre d'Abdias nous montre que Dieu tient parole. Dieu tient parole. Il avait dit d'Abraham et de sa descendance, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Édom a maudit Israël, Dieu a maudit Édom. » On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Troisième application, le livre d'Abdias indique que Dieu est juste. Dieu est juste. Il dit à Édom, le verset 15, c'est très fort, « Il te sera fait comme tu as fait. Je vais pas t'en remettre plus. Je vais juger justement. Il te sera fait comme tu as fait. » Et la seule manière de ne pas porter nos fautes, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais moi aussi j'ai péché, c'est que quelqu'un d'autre les porte pour nous. Et Jésus-Christ porte les péchés de celui qui se repent et qui croit en lui. Quatrième application, le livre d'Adias indique que l'espoir des Édomites réside dans la rédemption de Jacob. Au lieu de les haïr, ils devraient se réjouir que de ce peuple Dieu amènera la rédemption. C'est lui, c'est de ce peuple de Jacob que sortira le Sauveur, celui qui donne sa vie pour ceux qui l'ont méprisé. Et Marc 3 nous indique que des Édomites ont suivi Jésus-Christ. Marc 3, verset 7 nous dit « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit vers la Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, d'Édom, de Transjordanie, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. » Moi, je trouve l'évangile fantastique, les amis. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir, même pour les Édomites. Pour les Édomites. Même pour les Édomites, il y a de l'espoir. C'est l'évangile. Et le livre d'Adias, cinquième élément, j'ai dit que j'en avais quatre, mais j'en ai cinq, en fait, donne un espoir au peuple de Dieu. Un espoir au peuple de Dieu lui-même. Il ne disparaîtra pas, le peuple de Dieu est dans une situation difficile. Les Édomites les ont attaqués, d'autres les ont attaqués, on leur veut du mal. Mais jamais, jamais on ne peut détruire le peuple de Dieu. Jamais. Et c'est un très grand encouragement. Peut-être qu'on le sent un peu moins parce qu'on est moins persécuté physiquement, etc. Mais c'est tellement important de se rappeler que Dieu jamais ne laissera son peuple être détruit. Je conclus courtement. Le prophète Abdias avait un double objectif. Appeler les Édomites à la repentance en leur annonçant le jugement. Premier objectif. Et consoler et encourager le peuple de Dieu en lui annonçant sa restauration. Voilà les deux objectifs qu'avait Abdias en parlant de ce jugement des Édomites. Le jugement d'Édom qui nous apprend que Dieu va certainement juger ceux qui ne se détournent pas du mal, nous encourage, c'est un Dieu de justice. Oui, aujourd'hui on a du mal à parler de ça. C'est amour, amour, il n'y a pas de justice. Dieu est un Dieu de justice et nous nous réjouissons lorsque justice est faite. Et nous nous réjouissons que Dieu restaure son peuple et nous appelons toute personne à se tourner vers celui qui peut nous libérer de tout péché. La question qui nous reste à chacun, te repentiras-tu ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance que tu es celui qui nous guide. C'est vrai, nous sommes reconnaissants pour toute ta parole. Nous sommes parfois perplexes face à des textes comme ce prophète Abdias qui est pour nous assez sombre, mais en même temps, qui nous montre par cette annonce de jugement un appel à la repentance, qui nous dirige vers celui qui est sorti de ce peuple que Édom voulait détruire, que Satan veut détruire, que le monde veut détruire, mais que personne ne peut détruire. Parce que toi, Seigneur, tu es celui qui garde ton peuple, qui a gardé ton Fils, et qui nous garde en lui. Ô Seigneur, permets que chacun ici, face à l'annonce du jugement qui est certain, qui va venir aussi pour nous, eh bien que tu puisses permettre que ceux qui n'ont pas saisi encore cette œuvre de Christ puissent être saisis par toi pour se repentir et pour croire cette œuvre magnifique que Jésus-Christ a accomplie pour que nous puissions être sauvés. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.